Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le journal de Fabien Cazot. Bonjour Fabien.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Un grand pas vers l'élucidation du mystère Estelle Mouzin. Michel Fourniret est accusé par son ex-épouse et désormais par des traces d'ADN. Les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de la fillette disparue en 2003. Les universités d'été des partis politiques, notamment Europe Écologie Les Verts ce week-end avec la question d'une éventuelle alliance avec la France Insoumise qui taraude les militants. On en parle tout à l'heure avec vos invités Laetitia.
Oui. Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et la nouvelle maire verte de Poitiers, Léonore Mauconduit. Elles seront les invitées du grand entretien, les journées d'été, bien sûr, les Verts regardés. Mais les écologistes sont-ils prêts pour plus, les régionales, la présidentielle? Quel est leur projet? Quelles sont leurs ambitions? On en reparle donc à 8h20.
L'opposant russe Alexei Navalny en route pour l'Allemagne pour y recevoir des soins. Son avion médicalisé a décollé cette nuit. Et puis la vie culturelle malgré le coronavirus, expérience à Leipzig ce matin d'un concert rock sous haute surveillance médicale.
France Inter.
C'est un mystère vieux de 17 ans qui est en passe d'être résolu, celui de la disparition d'Estelle Mouzin. Le portrait de la fillette vêtue d'un pullover rouge avait été affiché dans de nombreux lieux publics. Les révélations hier de l'ex-épouse de Michel Fourniret relancent l'enquête. C'est lui qui l'a violée et tuée, selon elle. Des traces d'ADN de la fillette ont par ailleurs été retrouvées sur un matelas chez la sœur du tueur en série. Reste une question majeure à laquelle les enquêteurs vont maintenant essayer de trouver une réponse. Ariane Grissel, où se trouve le corps d'Estelle Mouzin?
Pendant son audition, Monique Olivier a livré quelques détails à la juge d'instruction de quoi orienter les enquêteurs. Tout d'abord, le fait que Michel Fourniret est seul quand il rentre chez lui en Belgique après l'enlèvement. Tout porte donc à croire qu'Estelle Mouzin est déjà morte, son corps dissimulé quelque part. Autre élément, le fait que le tueur en série portait des vêtements sales à son retour, peut-être de la terre. L'avocat de Monique Olivier l'assure, si sa cliente savait où se trouve le corps d'Estelle Mouzin, elle le dirait. Richard Delgenès.
Les seuls corps qu'on a pu trouver, c'est soit par le hasard, soit parce que Monique Olivier était présente et a pu situer les endroits. À partir du moment où Monique Olivier ne parle pas, Michel Fourniret étant taisant, on n'a rien. Il faut bien comprendre que dans plusieurs affaires, Monique Olivier a situé des lieux où étaient les corps. Et que soit les lieux avaient changé, soit 20 ans plus tard, on ne retrouve pas les corps, mais elle a toujours indiqué les éléments qu'elle savait sur la disparition des corps et l'endroit où Michel Fourniret lui avait dit que les corps étaient. Donc si elle a des éléments qui permettent de situer le corps d'Estelle Mouzin, elle les donnera.
La maison de Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, où Michel Fourniret a emmené Estelle Mouzin, a été fouillée en juin sans succès. De nouvelles recherches devraient donc être entreprises après les dernières déclarations de Monique Olivier. Autre espoir pour les proches de la fillette, que Michel Fourniret dise lui-même où il a caché le corps de l'enfant. Le tueur en série à 78 ans commence à perdre la mémoire. Il doit être entendu la semaine prochaine par la juge d'instruction.
L'indignation à Oradour-sur-Glane, des tags négationnistes ont été découverts hier sur le centre de la mémoire de ce village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Une plainte doit être déposée dans la matinée. La rentrée des partis politiques avec les traditionnelles universités d'été, en partie masquées cette année. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise tiennent les leurs en même temps ce week-end. Une sorte de « je t'aime moi non plus » à 600 km de distance entre les deux formations de gauche. La question d'une éventuelle alliance tiraille les militants écologistes, mais les ambitions présidentielles des uns et des autres compliquent sérieusement la donne. Laurence Perron.
Il y a ceux pour qui ça n'est définitivement pas possible. Yannick Jadot en tête adore désormais rappeler que Jean-Luc Mélenchon cumule 60 ans de mandat et je cite « autant de roublardises ». On sonde les militants avec un peu de politique fiction. Si on faisait un ticket, Mélenchon président, Yannick Jadot Premier ministre.
Ça passera pas. Mais...
Je pense que le fait qu'il y ait Mélenchon, ça a attiré plus de personnes, étant donné que c'est une image qui est un peu plus symbolique.
Celle qui résume assez bien le sentiment général chez les jeunes, c'est Pauline Rapilly-Ferniaud. Elle a tenté de conquérir Boulogne sans faire alliance avec LFI. Toutefois, elle les considère comme de vrais partenaires.
Il n'y a pas un ripple France Insoumise. Dans les médias, on voit souvent les Verts France Insoumise comme si on était ennemis. Alors qu'en fait, du côté des militants, au contraire, quand je rencontre des militants et que moi je dis « Oh, je me sens un pied Vert, un pied France Insoumise », la plupart me répondent « Ah oui, bah moi aussi. » Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont chez nous, qui ont fait la campagne de Mélenchon en 2017. Ils n'ont pas été déçus de Mélenchon ou de la France Insoumise, mais je pense qu'ils ont été déçus du fait que la dynamique s'arrête un peu. Et je pense qu'il y a des militants, militantes insoumises qui ont trouvé ça chez les Verts.
D'accord, mais l'alliance formelle, c'est tout de même très loin d'être gagnée.
La situation sanitaire en France avec encore plus de 4500 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures. C'est le deuxième jour consécutif depuis mai que la barre des 4000 nouveaux cas est franchie, ce qui porte à plus de 20 000 le nombre de contaminations sur les 7 derniers jours, selon la Direction Générale de la Santé. Après 3 mois et demi de confinement, puis de reprise partielle des cours au printemps dernier, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé pour cet été le dispositif des vacances apprenantes. Objectif, maintenir des activités d'apprentissage, notamment dans les quartiers en difficulté. Premier bilan à l'approche de la rentrée, les vacances apprenantes n'ont pas fait le plein en termes d'effectifs, mais selon les associations, les enfants qui y ont participé pourront en retirer des bénéfices. Sonia Princé.
125 000 enfants ont déjà bénéficié des colos apprenantes, 300 000 des écoles ouvertes. Et il faut aussi comptabiliser les centres de loisirs, mais les chiffres ne sont pas encore définitifs. Au départ, le concept de vacances apprenantes a fait sourire. Mais finalement, les familles ont adhéré au dispositif malgré la crainte du virus, comme l'a constaté Michael Ramalosa, directeur de programme à la Fédération nationale des Francas, qui organise colonies et centres de loisirs.
L'apport que nous pouvions avoir en début d'été, c'était effectivement d'avoir un certain nombre d'enfants qui ne soient pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres de l'ordre de, allez, 70 et 80% des fréquentations des années précédentes, à peu près.
Les enfants ont pu pratiquer à nouveau des activités sportives, artistiques, et ils ont surtout renoué avec la vie en collectivité.
On a permis aux enfants de se retrouver en groupe. C'est la question des règles, mais c'est aussi la question de comment au quotidien on partage des choses. Ce qui, après 3 mois de confinement et pour certains d'absence de reprise de la scolarité, est un point positif parce qu'ils n'ont pas été en collectif depuis un certain temps. Et c'est sans doute une première contribution de nos centres pour permettre aux enfants de reprendre dans de bonnes conditions au mois de septembre.
Ces jeunes auront peut-être un peu moins de difficultés à reprendre le chemin de l'école.
Sonia Princé. 8h07, la suite du journal Fabien Cazot.
L'opposant russe Alexei Navalny, gravement malade, est actuellement en vol à bord d'un avion médicalisé direction l'Allemagne où il doit y recevoir des soins. Son entourage soupçonne une tentative d'empoisonnement. On y revient dans le journal de 9h.
La suite, c'est avec 5 morts et 120 000 personnes évacuées, 500 maisons détruites. La Californie est encore une fois dévastée par des centaines d'incendies de forêt.
Des incendies toujours hors de contrôle malgré les 12 000 pompiers déployés autour de la baie de San Francisco, actuellement sous les fumées sur place. Éric de Salve.
Les fumées s'étendent jusqu'au Nebraska, à plus de 2000 km des côtes californiennes. Les cendres retombent comme des flocons sur San Francisco, cerné par ces gigantesques incendies. De mémoire de pompiers californiens, c'est du jamais vu. Plus de 560 feux sont dénombrés. Tous sont totalement hors de contrôle. Le plus important a même quadruplé de volume ces dernières 24 heures. Et déjà les premières victimes, 3 corps ont été retrouvés dans une maison calcinée et un pilote d'hélicoptère bombardier d'eau est mort dans le crash de son appareil. Le feu est même entré dans une réserve de séquoia brûlant des arbres vieux de 1400 ans. Les pompiers californiens ont mobilisé la totalité de leurs effectifs, mais cela ne suffit pas, alerte le gouverneur démocrate qui attend l'aide des États voisins. Donald Trump lui a déjà répondu en accusant la Californie de ne pas assez nettoyer ses forêts. 120 000 habitants ont été évacués en pleine pandémie. Beaucoup préfèrent éviter les abris de peur d'y contracter le coronavirus et dorment dans leur voiture. San Francisco, Éric de Salve, RFI pour France Inter.
Quelle vie culturelle malgré la crise sanitaire. Une expérience va être menée ce matin en Allemagne. Un concert sous surveillance scientifique à Leipzig. Correspondance de Nathalie Versio.
L'Arena de Leipzig retrouve ce matin son public avec le chanteur Tim Benko. De 2000 à 4000 spectateurs sont attendus dans la grande Arena qui se soumettront à un strict protocole sanitaire. Port du masque, désinfection des mains avec un gel fluorescent. Chaque participant sera en outre équipé d'un appareil détectant tous ses mouvements et devra avoir été testé négatif au Covid-19. Pendant un mois, l'équipe va analyser toutes les données récoltées pendant le concert. 3 scénarios seront étudiés, comme l'explique le chanteur.
Dans le premier scénario, le public se comporte comme avant, simplement les gens portent le masque. Dans les scénarios 2 et 3, les mesures sanitaires sont à chaque fois renforcées.
À Düsseldorf, la municipalité vient d'autoriser l'organisation début septembre d'un concert de 13 000 spectateurs. Décision très controversée dans le pays. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Un petit concert bientôt, ça vous tente Laetitia ?
Rendez-nous les concerts. Merci Fabien Cazot.